Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 22. Nous sommes en effet toujours sur ce sujet qui est vraiment important de la séduction, de l'Église, pardon, face à la séduction des derniers temps. Notre frère l'a rappelé. Et nous avons vu que, donc nous allons lire Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 29, voilà. Et nous avons vu que la séduction dans les derniers temps concerne particulièrement l'Église et que c'est une menace qui est particulièrement redoutable. Nous en avons vu, je pense, à travers quelques textes de l'Écriture, sa dangerosité particulière. Nous avons aussi vu que le Seigneur Jésus, dans sa grâce et dans son amour pour ceux qu'il a sauvés et rachetés, nous a donné les moyens de reconnaître ces séducteurs que sont les faux Christs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres qui pulluleront dans les derniers temps. L'Écriture nous dit que, justement, dans les derniers temps, eh bien, les gens se donneront une foule docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, parce qu'ils ne supporteront plus la vérité. Parce que malheureusement, cette vérité qui pourrait les affranchir, elle les dérange. Et comme les gens, vous savez, aiment être caressés dans le sens, comme on dit, dans le sens du poil, voilà, eh bien, voilà, ils se choisissent. C'est une véritable tragédie. Ce sont des temps dramatiques que nous vivons, mais c'est ainsi. Le Seigneur, on l'a lu, nous a dit « Je vous ai tout annoncé d'avance pour que vous soyez préservés de ces choses-là ». Et donc ce matin, nous voyons, eh bien, quels sont les terrains, les états d'esprit, les états de cœur qui sont favorables au fait qu'une séduction puisse s'immiscer et nous amener à déchoir, à être déchus de la grâce de Dieu. Alors, à travers ce premier texte que nous lisons, maintenant, il est dit ceci: Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, c'est-à-dire vous êtes dans l'égarement, vous êtes séduit. Je rappelle que ce mot là dans le texte grec, le mot erreur, c'est le mot planer qui signifie aussi égarement, séduction. Vous êtes dans l'erreur, la séduction, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Alors pour situer le contexte, les Sadducéens, qui étaient une frange du judaïsme de l'époque de Jésus, qui ne croient ni à la résurrection, ni aux anges, voilà, ni aux esprits, etc., disent que ont voulu piéger en quelque sorte, hein, voilà, le Seigneur Jésus, et ils ont raconté une histoire, voilà, vous la lirez, et c'est à cette interpellation de Jésus par les Sadducéens que Jésus leur adresse donc cette réponse, cette vérité: vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà un des dangers qui peut nous amener à tomber dans une séduction, c'est le fait de ne pas comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le fait de ne pas comprendre, parce qu'on a une mauvaise connaissance ou une méconnaissance des Écritures, parce que cela, je pense que nous le saisissons assez facilement. Bien qu'il y ait dans la parole de Dieu, dira l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, des choses difficiles à comprendre, et dont les personnes mal affermies tordent le sens. Il y a malgré tout, pour ce qui concerne le salut et le fait de demeurer dans le salut, des choses qui sont tout à fait claires, tout à fait simples, pourvu que nous les recevions avec un cœur bien disposé. Je voudrais surtout m'arrêter sur ce point, Jésus dit aux Sadducéens, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Nous vivons depuis plusieurs années déjà des temps où les gens sont à la recherche de la puissance. De la puissance de Dieu. Certains comprennent la puissance de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit comme nous ayant été donnés pour voilà, que nous soyons délivrés dans la souffrance, que nous ne connaissions plus les difficultés, etc. Certains comprennent la puissance de Dieu comme étant une puissance qui nous est donnée pour opérer des prodiges, opérer des miracles, la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais dire que, je voudrais d'abord rappeler que nulle part dans l'Écriture, il nous est demandé de rechercher la puissance de Dieu. Nulle part, je le répète deux fois, dans l'Écriture, il nous est demandé de rechercher la puissance de Dieu. Il nous est demandé, ainsi que nous l'avons entendu d'ailleurs dans un don spirituel ce matin, de chercher Dieu. Il nous est demandé de rechercher l'amour, de rechercher la foi, de rechercher la justice, la piété, la patience, la douceur, de rechercher la paix envers tous, de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais il ne nous est jamais demandé de rechercher la puissance de Dieu, mais il nous est demandé de vivre en communion avec Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Celui qu'il faut rechercher, c'est lui, c'est Jésus. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. Et c'est lui qu'il faut absolument rechercher, c'est dans sa sainte communion que nous sommes appelés à vivre chaque jour, au quotidien. Et comme c'était évoqué également dans ce don spirituel que nous avons entendu ce matin, nous devons faire bien attention, comme le faisait le peuple de Dieu dans le désert, d'aller chaque jour, de préférence je dirais même chaque matin, avant même que le soleil se lève, c'est-à-dire avant même de commencer quelque activité, que ce soit activité professionnelle, activité familiale, d'aller chercher notre manne spirituelle dans l'Écriture. Vous avez, on ne va pas parler de la manne, mais je rappelle très rapidement, la manne, elle était semblable à des petites graines de coriandre, un petit peu comme des petits grains de poivre, voilà. Et il fallait en ramasser, donc d'abord il fallait se baisser, donc pour ramasser la manne, il fallait sortir et chacun devait en ramasser donc pour lui et pour les siens. Et il devait en ramasser un homère par personne. C'est-à-dire, l'homère, c'est la dixième partie de l'épha, ce qui ne nous avance pas beaucoup si on ne sait pas que l'épha, c'est à peu près entre 40 et 50 litres. Hein, voilà. Mais écoutez bien, un homère, c'est 4 litres, à peu près, autour de 4 litres. Hein. Mais 4 litres, ramasser 4 litres de petits grains comme ça, ça se fait pas en deux minutes, vous le comprenez. Donc, ça veut dire qu'il fallait prendre du temps. Et c'est important de consacrer le matin un temps. Et vous allez voir que commencez par ne serait-ce qu'un quart d'heure. Parce qu'il faut se discipliner à cela. C'est une discipline. D'une manière naturelle, ne sont pas portées. On se lève, on va faire chauffer le café. On regarde vite fait le feuillet du calendrier pendant qu'on fait autre chose. Etc. Notre chair ne veut pas de cela. Mais si nous nous disciplinons, c'est agréable au Seigneur. Et nous allons éprouver sa joie dans notre cœur. Et rapidement, nous allons nous rendre compte que un quart d'heure, c'est trop court. Et puis, voilà, nous allons prendre le temps ensuite, eh bien, qui conviendra. Et nous repartirons en ayant été nourris des paroles de la foi, éclairés par le Saint-Esprit, nous pourrons, eh bien, avoir les forces pour maintenir eh bien, la ligne de notre témoignage, là où nous serons, là où Dieu nous a placés, dans notre famille, dans notre lieu professionnel, etc., nous pourrons maintenir, voilà, le témoignage d'une manière digne, en toute simplicité, en toute humilité. Voilà. Mais il faut commencer par cela. Et pour revenir donc à cette notion de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, elle ne nous a pas été donnée seulement pour parler en langue, même si le parler en langue, c'est extrêmement important, j'en dirai un mot tout à l'heure. La puissance du Saint-Esprit ne nous a pas été donnée seulement pour accomplir des prodiges et des miracles. Je rappelle que les disciples, avant même d'être baptisés du Saint-Esprit, dans les évangiles, ont été envoyés, deux par deux, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Et ils sont revenus, les malades, ils ont fait le compte-rendu au Seigneur, Jésus, et les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Alléluia! Mais ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore vécu leur Pentecôte personnelle. Mais quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est venu dans leur cœur qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ce qui est venu dans leur cœur, c'est la puissance de l'amour du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, pour que nous soyons rendus capables d'aimer comme Jésus nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Eh bien, le Seigneur nous rend capables de vivre son commandement à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Regardez Simon-Pierre, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Mais, c'est difficile, mais au moment de l'arrestation du Seigneur, il prend son épée et il veut fendre le crâne du serviteur, du sacrificateur. Il a tranché l'oreille parce que certainement il a dévié, mais il voulait le tuer. Mais il ne savait pas de quel esprit il était animé, n'est-ce pas ? Voilà. Et Jacques et Jean, c'est pareil. Ils passent par un bourg, un village des Samaritains, ils ne sont pas reçus. Ils disent, Seigneur, tu veux qu'on commande que le feu du ciel descende et les consume tous ? Jésus leur dira, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais quand ils sont remplis du Saint-Esprit, qui va aller en Samarie pour imposer les mains aux Samaritains ? Pierre et Jean. Jean. Et Simon-Pierre, qui s'est enfui, qui a renié le Seigneur par trois fois, avant même que le coq ne chante deux fois, avait dit le Seigneur. Ça s'est accompli à la lettre. Puis Jésus l'a regardé, il a pleuré. Ça, c'était avant la Pentecôte. Il avait été un instrument pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais lui manquait quelque chose qu'il a reçu le jour de la Pentecôte. Cette capacité d'aimer les hommes, quels qu'ils soient. Et quand il sera arrêté et qu'il est menacé de ne pas parler de Jésus, il dira, nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est plus fort qu'une affirmation. C'est une double négation. Nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est pas possible parce que l'amour de Christ et là, et les presses. Alors voyez, aujourd'hui, beaucoup recherchent la puissance de l'Esprit ou la puissance de Dieu pour vivre un évangile, j'allais dire confortable, dans un fauteuil. Mais c'est pas l'évangile ça. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est suivre l'homme de douleur, habitué à la souffrance, le suivre dans la voie du renoncement, dans la voie de l'amour pour le prochain, dans la voie de la calomnie, dans une voie où on reçoit des crachats. C'est cela aussi. Il n'y a pas d'évangile sans la croix. Et le Saint-Esprit nous aide à maintenir la croix au centre, pas seulement du message, mais au centre de notre vie. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, Jésus disait à ces Sadducéens, mais vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous avez été séduits. Et frères et sœurs, c'est important de maintenir au centre de notre vie la croix du calvaire. Pas seulement dans le blabla, pardon. Pas seulement comme un slogan, mais comme un vécu réel au quotidien. Et à ce moment-là, alors oui, nous connaîtrons vraiment et nous comprendrons le but de la puissance du Seigneur, de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas... La puissance de Dieu, puisque Jésus dit, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, elle n'est pas dans des formules. Nous vivons un temps où, voilà, c'est pas nouveau malheureusement, mais on cherche des méthodes, on cherche des formules. Les fils de Séva, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 et au verset 13, eh bien, chassaient des démons, et il nous est dit qu'un jour ils sont tombés vraiment sur quelqu'un qui était réellement possédé par une puissance démoniaque, et ils ont essayé de chasser ce mauvais esprit au nom de Jésus que Paul prêche, diront-ils. Et le démon s'est exprimé en disant, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Voyez, les véritables chrétiens, ils sont connus de Dieu, mais ils sont identifiés aussi par l'ennemi. Ils sont identifiés par l'ennemi. Et l'Écriture nous dit que l'Esprit s'est jeté sur eux à travers cet homme, et ils se sont sauvés, dépouillés, nus, dans la honte, dans la confusion. La puissance de Dieu, elle n'est pas dans des formules. Ce n'est pas parce qu'on va dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, voilà que la puissance de Dieu va se manifester. Ce n'est pas parce qu'on va crier avec un porte-voix ou un haut-parleur ou qu'on va monter la sono à fond en criant au nom de Jésus. Ce n'est pas ça la puissance de Dieu. Elle n'est pas dans les décibels, la puissance de Dieu. Elle n'est pas non plus dans des hommes. La puissance de Dieu ne se trouve pas dans des hommes. Il peut y avoir de bons canaux, de la puissance du Seigneur. Mais vous savez, un canal reste un canal. Un tuyau, c'est un tuyau. Si le robinet est fermé, il n'y a rien qui passe. Mais quand le robinet est ouvert, eh bien, le tuyau, il peut amener l'eau jusqu'au point où on veut arroser. Voilà. Eh bien, les hommes, ce ne sont que des vases de terre. Il peut y avoir, oui, de bons canaux de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, elle ne se trouve pas dans des hommes. Nous avons l'histoire de Naaman. Vous savez, le Syrien, ce général syrien qui était lépreux et qui a entendu que, voilà, à travers le témoignage d'une enfant, béni soit Dieu pour les enfants, pour leur spontanéité, pour... cette capacité parfois qu'ils ont de dire des vérités qui, pof, c'est simple, mais pof, hein, voilà, ça vous touche. Et cette petite fille qui était pourtant, eh bien, une petite esclave au service de la femme de Naaman, eh bien, elle a dit, mais voilà, si mon Seigneur, eh bien, était auprès de... en tout cas, s'il connaissait... le prophète Élisée, le prophète le guérirait de sa lèpre. Voilà. C'est la parole d'une enfant. Et c'est pas le prophète qui guérit. C'est le Dieu que sert ce prophète-là qui guérit. Mais c'était une parole d'enfant. Il faut laisser les enfants à leur place. Voilà. Et Naaman, il s'est mis en route et il est allé chercher, vous connaissez l'histoire. Et puis, il avait imaginé que ben, il était habitué aux grandes réceptions, certainement, ce général, le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc, un homme qui était certainement très honoré. Et voilà, il pensait qu'il y aurait une grande réunion qui serait organisée sur la place avec des grands signes, des grands mouvements, que le prophète viendrait avec tout un cérémoniel et que là, ben, Alléluia, bon. Eh bien non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Quand il est allé, quand il a trouvé le lieu où résidait Élisée, Élisée a envoyé son serviteur. Et il lui a dit, bien, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Mais il s'est mis en colère, Naaman. Il s'est mis en colère. Et comment, moi, on m'envoie un sous-fifre, hein, en quelque sorte. Mais il était vexé, il partait en colère et tout. Et il a fallu que ce soit ses propres serviteurs qui lui disent, tu sais, bon voilà, peut-être que il faudrait quand même que tu fasses ce que l'homme de Dieu a dit, etc. Bon, finalement, il l'a fait. Et vous savez comment, en se trempant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, et puis à la 7e fois, le miracle s'est... Parce qu'il est allé jusqu'au bout de l'obéissance, le miracle s'est produit. Et là, c'est pas seulement sa chair qui a été changée, mais c'est son cœur aussi qui a été changé. Et du coup, il ne voulait plus offrir de sacrifice qu'à Dieu, à Dieu seul. Et la leçon que nous retenons de cela, c'est que la puissance de Dieu, elle n'est pas dans les hommes, elle se manifeste dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Et la puissance de Dieu, on peut dire que elle s'accomplit, elle se manifeste à travers aussi une vie qui est comme celle du prophète Élisée, comme celle des apôtres, des vies qui sont totalement livrées au Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a expérimenté des choses douloureuses dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Apocalypse chapitre 2 Corinthiens pardon chapitre 12. Eh bien, il nous avait parlé d'un ange de Satan qui était là pour le souffleter. Il a prié le Seigneur pour être délivré de cette écharde dans la chair, de cette souffrance physique qui était là. Certains pensent qu'il s'agissait des yeux, qu'il avait des douleurs. C'est vrai qu'il avait des douleurs à ses yeux. Et il a prié par 3 fois le Seigneur et le Seigneur lui a dit, eh bien, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Et frères et sœurs, c'est souvent à travers de grands moments de faiblesse. Je ne parle pas de faiblesse morale, mais c'est quand on se sent petit, quand on se sent impuissant précisément au service du Seigneur, qu'à ce moment-là, eh bien, nous sommes disponibles comme un instrument pour être le vecteur, le canal de la manifestation de la puissance du Seigneur. Donc, nous avons besoin de veiller à cela. Je voudrais revenir, je ne vais pas développer davantage concernant le but de la puissance du Saint-Esprit, mais simplement rappeler combien c'est important dans les temps que nous vivons. Dans Ésaïe au chapitre 59 et au verset 19, je voudrais que l'on puisse lire ce texte, parce que c'est un texte prophétique qui concerne les derniers temps, et en particulier... Voilà, la venue de Christ et la venue de Christ pour le monde, mais aussi pour Israël, et il est question de la conversion d'Israël, donc ce sont des temps qui sont encore à venir. Donc nous sommes vraiment dans le sujet, il est dit au verset 19, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. » L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voilà, ce texte nous montre l'importance cruciale de l'action du Saint-Esprit. C'est le, je dirais que c'est le rempart contre ce fleuve de la séduction qui vient. Il ne vient pas dans le monde, il vient contre l'Église. Eh bien, dès lors que nous allons dresser les digues du baptême dans le Saint-Esprit, de la crainte de l'Éternel, d'ailleurs, le Saint-Esprit ne va pas sans la crainte de Dieu, puisque il est dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse, de force, de crainte de l'Éternel, de connaissance, un esprit de crainte de l'Éternel. Eh bien, lorsque ces digues sont dressées par le Saint-Esprit dans notre vie, là, nous sommes en mesure de résister à la séduction de l'ennemi. Donc, que Dieu nous aide à prendre en compte cela. Je voudrais voir un autre point rapidement. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, encore un terrain qui est favorable pour le développement d'une séduction, et nous devons veiller à ne pas développer un tel état d'esprit. Voilà, 2 Thessaloniciens, cette seconde épître aux Thessaloniciens est d'ailleurs consacrée à l'avènement du Seigneur. Voilà, je vais y arriver. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On peut lire à partir du verset... Oui, du verset 8, il dit ceci. Et alors paraîtra l'impie, c'est une désignation de l'Antichrist, dont nous sommes encore dans des temps qui vont bientôt venir. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, écoutez bien, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, la puissance, là il y a une puissance aussi, une puissance de séduction, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, et écoutez bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, écoutez bien, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Ce sont des textes qui sont graves et qui portent à réflexion, évidemment. Et là, nous voyons que ne pas recevoir, ne pas avoir l'amour de la vérité, c'est-à-dire l'amour de la parole de Dieu, ne pas recevoir avec amour la vérité quand elle nous est présentée, eh bien, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit qui peut nous amener à tomber dans une séduction. Et nous devons donc veiller à ne pas tomber dans ces travers. Dans 2 Timothée, chapitre 4, et nous sommes en train de vivre ces temps-là, 2 Timothée, chapitre 4, Paul exhorte au verset 1er, voilà, Paul exhorte Timothée, et il dit ceci, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Voilà donc, ne pas recevoir la vérité avec amour nous expose aux écueils de la séduction. Vous savez, vous vous souvenez du temps de Jérémie, au temps de Jérémie, Jérémie chapitre 28, verset 15, il y avait beaucoup de faux prophètes qui étaient là autour du roi Sédécias, qui s'était rebellé contre le roi Nebuchadnezzar, mais Dieu avait mis un prophète, un serviteur de Dieu, un vrai prophète en Israël et dans Jérusalem. Il s'appelait Jérémie. Et Jérémie a prophétisé donc la venue d'un jugement sur le peuple de Dieu, disant notamment, relayant la parole de Dieu qui disait « Vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et dans tout son livre, Jérémie, et dans les Lamentations, Jérémie exhorte le peuple à la repentance, à revenir vers Dieu. Et il annonce donc le jugement qui vient de la part de Babylone. Puis voici que les Babyloniens viennent et ils font le siège de Jérusalem. Et donc Jérémie exhorte à déposer les armes en disant « Mais ne résistez pas, c'est un jugement de la part du Seigneur, vous allez être emmenés en captivité. » La loi annonçait déjà, la Torah annonçait déjà ces choses bien longtemps à l'avance. Et donc Jérémie disait en substance « Voilà, vous irez en captivité, mais ensuite vous serez ramenés. » Voilà, après que la discipline de Dieu soit passée sur votre vie, vous serez ramenés. Mais il y avait à côté du roi Sédécias, qui avait entendu le conseil de Jérémie, d'autres prophètes, des faux prophètes, mais qui prétendaient parler de la part de Dieu, qui disaient au roi Sédécias, Dieu va briser, ainsi parle l'Éternel, voilà, je vais briser le joug de Babylone. Alors ça, c'était beaucoup plus agréable à entendre pour le roi Sédécias, parce que ça parlait de victoire, ça parlait donc de laurier, d'honneur, de chants de joie, des louanges du peuple qui montaient bien vers Sédécias. C'était très agréable, mais celui qui avait la vérité, qui n'était pas agréable à entendre, c'était Jérémie. Et alors que Anania et les autres faux prophètes prophétisaient le mensonge, tellement agréable à entendre, Sédécias a fait son choix. Et son choix a mené une tragédie. Il s'est rebellé, Nebuchadnezzar et ses armées ont envahi Jérusalem. Sédécias, qui était un roi qui avait à peu près à l'époque un peu plus d'une trentaine d'années, on va dire, voilà, a été capturé. Ses enfants ont été capturés, on les a, je ne vais pas dire le mot que dit la Bible, il y a des enfants, on les a passés au fil de l'épée, puis ensuite on a crevé les yeux du roi Sédécias, et il est parti pour mourir à Babylone. C'est dramatique. Il n'avait pas eu l'amour de la vérité, alors le jugement était inéluctable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, des événements qui sont intervenus en Côte d'Ivoire. J'étais d'ailleurs au Burkina à ce moment-là. C'est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Et c'était à l'époque du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, vous savez, il y a eu des élections, il a perdu les élections et il ne voulait pas lâcher le pouvoir. Et on a su qu'autour de lui, la femme de Laurent Gbagbo était fréquentée une assemblée évangélique et des prophètes étaient là dans l'environnement du président Gbagbo. Et s'il a résisté pendant autant de temps, avec les dégâts que l'on sait, avec tous les morts que l'on sait, c'est parce que ces faux prophètes lui prophétiser la victoire exactement comme Anania prophétisait à Sédécias. Et c'est parce que cet homme a été séduit que, voilà, il a résisté, finalement il a été capturé, et puis il est encore en prison. Ça fait 7 ou 8 ans, je ne sais plus maintenant, voilà. L'histoire s'est répétée. Il y a eu des morts. Parce qu'un homme n'a pas eu l'amour de la vérité. Des milliers à Jérusalem sont morts à cause de cela. Donc, voilà, il faut entendre et recevoir avec amour la vérité. Et parfois, les serviteurs de Dieu ont des démarches difficiles à faire. Quand il faut présenter la vérité, malgré le fait qu'ils essaient de la présenter avec tact, avec délicatesse, ces vérités ne sont pas toujours reçues avec l'amour de la vérité. Mais Paul, qui a vécu ces choses aussi, était prêt à souffrir cette incompréhension de la part des chrétiens, pourvu qu'il reste fidèle au message que Dieu lui avait donné. Et il dira même aux Galates, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Et c'est vrai que parfois, les serviteurs de Dieu sont considérés par certains comme l'ennemi, mais c'est pas lui l'ennemi. C'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan, le diable. C'est lui qui veut nous détourner de la vérité. Il disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 15, « En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous ?» C'était une réalité qu'il vivait douloureusement dans sa vie personnelle. Mais il était prêt à souffrir pour que la vérité soit maintenue, parce que Paul savait que son message était inspiré par le Saint-Esprit et que cette vérité était seule capable d'affranchir, eh bien, ces chrétiens de Corinthe qui étaient tombés dans les pièges du diable et qui marchaient selon la chair et qui couraient à leur perte pour certains. Bien qu'il y ait, il y avait dans ces églises de, cette église de Corinthe des éléments de valeur. Vous savez, à la fin des les salutations pour Stéphanas, Fortunatus et d'autres dont les noms ne me viennent plus. Voilà. En tout cas, ça peut être dangereux de s'endurcir en n'écoutant pas la vérité. Vous vous souvenez de Pharaon, lorsque Moïse est envoyé vers lui, l'Écriture nous dit qu'il endurcit son cœur. Il dit, oui, d'accord, allez, ok. Et puis finalement, il endurcit son cœur. Et à 6 reprises, Pharaon endurcit son cœur. À la 7e fois, vous le lirez, voilà, Exode chapitre 10, verset 20, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. C'est dramatique. Il y a un seuil, frères et sœurs, je le dis souvent, au-delà duquel il ne faut pas aller dans la résistance à Dieu. Et j'aimerais rassurer tout le monde là. Voilà. Si vous êtes là, c'est que même si vous êtes rebelle, que Dieu vous bénisse, vous n'avez pas encore atteint ce seuil, sinon vous ne seriez pas là. Mais si vous entendez ce message, c'est parce que vous n'avez pas atteint ce seuil, que Dieu vous aime, qu'il continue de vous aimer. Voilà. Il y a sur la rivière Niagara, vous avez entendu parler des chutes du Niagara, ça fait 50 mètres, voilà. C'est un brouillard, un vacarme assourdissant, parce que l'eau, elle tombe sur des rochers. Ça pulvérise les chutes d'eau, ça fait une espèce de brouillard à queue. Bon, voilà. Et il y a, peu de temps avant ces chutes, un rocher qui s'appelle le Past Redemption Point, c'est-à-dire le point au-delà duquel il n'y a pas de salut possible. Voilà. Et c'est à l'intention des baigneurs ou de ceux qui vont en canoë, voilà. Ils savent qu'il ne faut pas aller au-delà, parce que sinon, le risque, c'est d'être emporté, et malgré les efforts, on ne peut pas revenir, ce n'est pas possible. Et on est fracassé, 50 mètres, vous tombez sur les rochers, vous êtes fracassé. Voilà. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous aide à avoir l'amour de la vérité. Aimons la vérité. Aimons-la de tout notre cœur. Un autre point, plus rapidement, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, au chapitre 18 et au verset 1er, il nous est dit ceci: « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. » Mais c'est le verset premier surtout: « Celui qui se tient à l'écart, Proverbe chapitre 18, verset 1er, cherche ce qui lui plaît. » Un autre état d'esprit qui peut favoriser le développement d'une séduction et donc et amener une chute, à être déchu de la grâce, hein, voilà. C'est un état d'esprit d'indépendance et de marginalité. C'est cet état d'esprit qui consiste à vouloir faire des choses pour Dieu, mais en dehors de toute concertation avec l'Église et avec ses responsables. Alors, l'esprit d'initiative est une excellente chose. Il faut garder cet esprit. C'est bien, il faut que l'Église soit un bouillonnement d'idées pour sauver les âmes, pour, voilà. Mais ce que nous devons savoir, c'est que il faut toujours tout faire en concertation avec l'Église et avec ses responsables pour organiser, coordonner. Vous savez, le modèle qui nous a été donné dans le Nouveau Testament pour l'Église, c'est le modèle du corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Et un corps, c'est un organisme qui est vivant, qui est organisé et de manière harmonieuse, parce que sur le corps il y a une tête, voilà, et tant que la tête fonctionne, elle envoie ses ordres pour coordonner les mouvements, etc. Et c'est pareil, voilà. Et l'Église nous dit que le modèle de l'Église, c'est quoi? C'est, eh bien, l'Église, c'est le corps avec tous les membres, et Christ, c'est la tête, source d'inspiration, alléluia. C'est lui qui coordonne et qui fait que, quand nous sommes rattachés au corps, chaque membre étant à sa place, eh bien, tout l'ensemble fonctionne de manière harmonieuse et beau. Et quand c'est comme ça, l'Église, elle est belle. Mais il y a des gens qui disent: oui, mais moi, je veux dépendre que de Dieu. Je veux dépendre que de Christ. Imaginez que mon pied dise: moi, j'en ai assez. Je veux plus être attaché à la jambe. J'en ai assez, je suis toujours en bas, la poussière, j'en ai assez. Moi, je veux dépendre que de la tête. Et que mon pied vienne, paf, se planter ici, là, tac. Et jante comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre à courir. Parce que c'est disharmonieux. C'est, l'harmonie est rompue, brisée, voilà. Et frères et sœurs, tout esprit d'indépendance est un état d'esprit qui favorise la séduction. Et on a besoin de veiller pour ne pas tomber donc dans ce piège-là. Voilà, juste encore un texte, dans peut-être un dernier point rapidement. Un premier épître de Jean. Voilà, je n'ai pas donné les versets pour concernant l'Église, le modèle du corps. Vous trouvez cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 18 nous rappelle que la tête de ce corps, bien coordonné, bien harmonieux, c'est Christ. Voilà. Voilà, donc nous prenons maintenant 1 Épître de Jean, chapitre 4. Verset 6, on va lire même le verset à partir du verset 1er. Il est dit ceci: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà aussi l'utilité du baptême dans le Saint-Esprit qui nous introduit dans l'exercice des dons spirituels. Et parmi l'exercice des dons spirituels, il y a un don qui est particulièrement précieux dans ces derniers temps. C'est le don de discernement des esprits. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pardon. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement, pour Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, excusez-moi, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voici maintenant, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est-à-dire les faux prophètes. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès. Tout ça, on l'a déjà vu. Écoutez bien maintenant ce verset. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît, c'est-à-dire qui a une relation de communion intime avec le Seigneur. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là, c'est ainsi, que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, encore l'esprit de la séduction. C'est ainsi qu'on peut faire la différence entre l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit, et l'esprit de l'égarement, l'esprit de la séduction. Ça veut dire que l'esprit de séduction va nous conduire à ne pas écouter les serviteurs de Dieu et à écouter toutes sortes de voix. Je vous avais dit, on a vu ce texte, hein? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. On a vu, pas en vêtements de berger, mais en vêtements de brebis. Souvent, la séduction, elle vient, je dirais, par la base, à travers des entretiens, des chrétiens. Ce sont des brebis, voilà, qui commencent à être séduites et qui vont en séduire d'autres. Et ça se fait souvent dans le dos du pasteur. Et c'est dangereux. Et l'esprit de la séduction va toujours pousser les gens à ne pas écouter les responsables, les serviteurs de Dieu, les anciens qui sont là dans l'église pour veiller sur le troupeau avec amour, avec dévouement. Pas en dominant, mais en étant des modèles. Eux-mêmes se tiennent comme étant des modèles. Et en plus, ils veillent. En plus de leurs problèmes, de leur lutte, de leur combat, ils se chargent des luttes et des combats de leurs frères et de leurs sœurs. Et l'esprit de la séduction va essayer de couper ce contact et d'amener les chrétiens à ne pas écouter les serviteurs de Dieu. Tandis que l'esprit de la vérité, au contraire, celui qui est de Dieu nous écoute. L'esprit de la vérité va nous amener toujours à être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. À être soumis aux anciens, à obéir. Le mot, on n'aime pas ce mot en France. On a gardé la mentalité gauloise. Mais nous sommes des Gaulois convertis maintenant. Donc, voilà, maintenant on obéit au Seigneur. Et la parole de Dieu nous exhorte à l'obéissance envers les serviteurs de Dieu. Obéissez à vos conducteurs spirituels. Ayez pour eux de la déférence, du respect, parce qu'ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte devant le Seigneur. Alors voilà donc comment, à travers ces divers points, voilà quels états d'esprit il faut absolument éviter, bannir de notre vie, pour ne pas tomber dans la séduction. Prévenir, c'est un dicton populaire, n'est-ce pas ? Vaut mieux que guérir, voilà. On a vu que on peut revenir d'une séduction, mais parfois on revient dans quel état ? Ne courons pas le risque d'être emporté. Je dirais en conclusion, voilà, lisons s'il vous plaît peut-être ce texte. Voilà, Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il est question de Christ. Il nous est dit ceci. Et il a donné, Jésus donc a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des chrétiens, des croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et là, il est question du ministère de l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Alors voilà donc, eh bien, ce texte nous rappelle la place et le but pour lequel Dieu a donné à l'Église les ministères. C'est aussi pour préserver, protéger le peuple, les enfants de Dieu, afin que nous ne soyons plus emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction, mais aussi afin de nous apprendre à professer la vérité dans l'amour. Gloire au Seigneur, que Dieu nous aide donc à prendre en compte toutes ces choses. Je rappelle simplement peut-être, allez, je vais lire juste deux textes sans les commenter, mais pour les laisser sur votre cœur. Hébreux chapitre 10, verset 37 nous dit, verset 36, verset 35 même, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et puis enfin, et c'est le dernier, Apocalypse chapitre 3, au verset 10, le Seigneur dit donc à l'église de Philadelphie, mais donc par-delà même cette assemblée, à l'égard de tous les enfants de Dieu que nous sommes, « Parce que tu as gardé, dit Jésus, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet équipement salutaire que tu nous as laissé, particulièrement nous qui sommes venus dans ces temps de séduction tellement intense, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ton regard a embrassé toutes les générations, de croyants, par-delà tous les âges qui viendraient, tout ce que tu as élu dans ta prescience. Tu as pensé à tes enfants, tu as pensé à nous, Seigneur, et tu nous as donné des éléments si précieux. Nous te remercions, Seigneur, pour un si grand amour. Aide-nous, Seigneur, à honorer ta parole comme nous t'honorons toi, ô notre Dieu. Aide-nous à la garder dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et aide-nous à persévérer au nom de Jésus-Christ. Aide-nous ensemble, mes frères et mes sœurs et moi-même. Aide-nous à cultiver ces liens de l'Esprit. Aide-nous à cultiver cette communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la foi que tu as transmise. Aide-nous à garder l'évangile tel qu'il nous a été transmis, tel qu'au moment où il nous a sauvés. Merci notre Père et notre Dieu, et à ton nom, ô notre Père et notre Dieu, nous donnons la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.